Chapitre 15e. Pendant l'entretien de Wolfram, de M. Dubousquet et du libraire, Francine, continuant de causer à demi-voix avec Sylvia, semblait surmonter son premier embarras, à en juger par son sourire confiant et par l'intérêt qu'elle paraissait apporter à la conversation, dont Sylvia faisait à peu près seule les frais. Aussi Wolfram, désignant du regard les deux jeunes femmes, dit à M. Lambert « Voyez donc, monsieur, ne croirait-on pas que ces dames se connaissent depuis longtemps ?»« La même remarque me frappait, monsieur, et je vous l'avoue, ma surprise est grande, car la timidité de ma femme est excessive. Sa condition et ses habitudes l'ont toujours tenue éloignée, non seulement du grand monde, cela va de soi, mais des modestes relations de société compatibles avec notre position. » La promptitude des bons rapports de ces deux dames entre elles, monsieur, prouve que leur esprit et leur caractère se conviennent. Je désirais vivement qu'il pût en être de même entre vous et moi. Franchement, monsieur, je le désirerais aussi. La parfaite bonté de votre accueil envers ce pauvre monsieur Dubousquet, et même envers son chien, m'a beaucoup touché. L'on considère généralement dans la maison notre voisin comme une espèce d'ours, de vieil égoïste. Je le juge autrement, quoique je ne le connaisse pas. Il m'a toujours intéressé. Et de cet intérêt pour lui, que je partage d'ailleurs, quelle est la cause ? Son goût pour la solitude. Ainsi, vous pensez que pour vivre seul, il faut éprouver ou avoir éprouvé de grands chagrins, ou bien encore être doué d'une trempe d'esprit peu vulgaire. Voilà ce qui cause ma sympathie pour M. Dubousquet. Quant au reproche d'égoïsme qu'on lui adresse, il me semble absurde. L'égoïsme ne recherche jamais la solitude, au contraire. Pourquoi cela, de grâce ? Parce que l'égoïste a besoin de se rapprocher des hommes, ne fût-ce que pour les sacrifier à soi-même. « C'est vrai, » dit Wolfram, frappé de la réflexion du libraire et de l'expression douce et grave de sa physionomie, puis il ajoute « Je suis certain que le pire défaut que l'on puisse avoir à vos yeux est l'égoïsme. » « Oui, car la vertu que j'estime la première de toutes est le dévouement, poussé s'il le faut jusqu'au sacrifice. Et pourtant, achevez, monsieur. « Je vais vous faire un aveu très impertinent, monsieur Lambert, » reprend Wolfram en souriant. « Je vous soupçonne, malgré votre aversion pour l'égoïsme, d'être légèrement entaché de ce défaut. Voyez l'audace de ma franchise, vous l'excusez ?»« Parfaitement, » répond le libraire, souriant à son tour. « Et pourquoi me soupçonnez-vous d'être légèrement égoïste ?»« Je me hâte d'ajouter qu'en vous, ce n'est pas l'homme que je soupçonne de ce défaut, c'est le bibliomane. »« Non, pardon, cette expression implique une sorte de manie, c'est le bibliophile, car vous l'êtes. » Avec passion, avec acharnement, j'ose dire avec férocité. Et moi, qui osais à peine vous soupçonner d'égoïsme, vous vous avouez féroce. Eh bien, si d'aventure vous rencontriez, je suppose, dans l'étalage poudreux d'un bouquiniste des quais, la première édition de Boccace, imprimée, si je ne me trompe, en 1471, par Baldarfer. La date est exacte, répond le libraire, assez surpris du savoir bibliographique de Wolfram. L'un des rares exemplaires de cette édition inestimable a même été vendu en 1812 à Londres lors du décès du duc de Roxburgh pour la somme de 52 072 francs, si ma mémoire est fidèle. « Très fidèle, monsieur, » répond le libraire, regardant Wolfram avec un nouvel étonnement. « Et ce livre incomparable n'a pas été payé trop cher. » Donc, si d'aventure vous découvriez par hasard l'existence d'un pareil trésor, ou bien un exemplaire de la Bible, de son sinode, publié en 1488, je crois, ou mieux encore, cette fameuse édition biblique où se trouve le texte hébreu de la polyglotte d'Alcala, publié, n'est-ce pas, à Amsterdam en 1514. « En 1514, pardon Marcel, » répond le libraire, dont la surprise allait croissant. « Comment, monsieur, vous connaissez ces éditions ?»« J'en connais bien d'autres, ma foi. » Et la splendide Bible dite de Benchaïm, éditée par lui avec tant de soin à Venise en 1525, et la Bible de... Mais, monsieur, pour posséder si jeune encore un pareil savoir, vous avez donc été nourri dès votre enfance dans les bibliothèques ? S'écrie ingénument le libraire, sentant d'ailleurs redoubler l'intérêt que lui inspirait Wolfram en découvrant, lui, un bibliophile. Il n'est pas sans personne à Paris qui sache seulement l'existence de ces éditions qui vous sont si familières. « Vous attachez trop d'importance à mon petit mérite, » répond Wolfram, souriant avec modestie. « Mais franchement, si vous aviez découvert par hasard quelqu'une des raretés dont les bibliophiles se montrent 100 fois plus jaloux que l'avare ne l'est de ses écus, voyons, est-ce qu'à ce sujet, Mais à ce sujet seulement, bien entendu. Vous ne seriez pas d'un égoïsme tant soit peu féroce, ainsi que vous en conveniez tout à l'heure.
Je vais, monsieur, vous paraître bien orgueilleux, dit monsieur Lambert, mais vous faites appel à ma sincérité, je réponds à cet appel.
Sans doute.
Eh bien, je compte dans ma carrière de bibliophile très admirable, mais seulement admirable à notre point de vue, à nous autres, car vous êtes des nôtres, monsieur Wolfram, je n'en saurais douter maintenant, et je m'en félicite.
C'est trop d'honneur pour moi, mais le trait dont vous parlez,
le voici. Il y a 10 ans de cela, furetant la boutique d'un pauvre marchand de bric-à-brac du quartier du Marais, qui, entre autres choses, vendait des parchemins à la livre, je découvre au milieu d'un tas de bouquins un exemplaire de la Bible de Soncineau que vous citiez tout à l'heure. Jugez de mon émotion. Non seulement ma trouvaille pouvait s'évaluer à 7 ou 8 000 francs, détail secondaire, mais l'exemplaire, point capital, était selon moi unique en France, monsieur Wolfram, unique en France.
À ce souvenir, votre regard s'illumine encore, monsieur Lambert. Ah, vous avez le feu sacré.
Ce souvenir me rappelle en effet ma jeunesse. J'étais alors dans toute l'effervescence de notre passion commune. Je demande au marchand de bric-à-brac combien il veut vendre cette Bible. Il me répond 4 francs 50 centimes.
Ce sont de ces jours qui marquent dans la vie, n'est-ce pas, monsieur Lambert?
Ce sont les jours de gloire d'un bibliophile. Je paye donc les 4 francs 50 centimes et je prie le marchand de garder chez lui le livre jusqu'à mon retour. J'étais pauvre et petit libraire alors. Je cours chez mon escompteur pour le prix de m'avancer 7 000 francs sur ma signature, afin de pouvoir acheter cette Bible.
Pardon, vous l'aviez, ce me semble, acheté 4 francs.
Je l'avais payé, afin que le marchand ne la vendît à personne. Mais je me serais conduit comme un fripon, en n'éclairant pas plus tard le pauvre homme sur la valeur réelle d'un livre qu'il me laissait pour moins de 100 sous, et que je savais valoir, au plus bas prix, 7 à 8 000 francs.
Répond simplement monsieur Lambert.
Accepter ce marché eût été de ma part presque un bol.
Ah, monsieur, vous pouvez à bon droit vous vanter de ce trait de délicatesse bien rare et...
Comment?
Vous croyez que c'est de cela dont je me vante, monsieur Wolfram? N'avoir pas abusé de l'ignorance de ce marchand afin de l'arronner? Allons, vous vous moquez.
Mais ce trait, selon vous admirable au point de vue d'un bibliophile...
Ce trait, modestie à part, le voici.
J'étais allé chez mon banquier dans l'espoir qu'il m'avancerait la somme nécessaire à l'acquisition de cette Bible de Soncineau. Il refuse. En lui était mon unique espoir, car je ne jouissais ailleurs d'aucun crédit. J'eus alors, je le confesse, une tentation odieuse. Celle de ne pas retourner chez le marchand, de lui laisser mon argent et la Bible, le sachant assez honnête homme pour être incapable de vendre à personne le livre qui désormais m'appartenait. Ainsi ce trésor restera enfoui. Il m'échappe, mais il ne sera possédé par personne, disais-je, avec cet égoïsme féroce auquel vous faisiez tout à l'heure allusion, monsieur. Mais bientôt la voix de la conscience se fit entendre. Je me reprochais de vouloir ainsi frustrer ce brave homme d'une petite fortune et soustraire à l'admiration des bibliophiles l'un des plus précieux spécimens de l'art typographique au XVe siècle. J'allais à la Bibliothèque royale. Je connaissais l'un de ses conservateurs chargés de l'acquisition des livres précieux. Je l'instruisis de ma découverte, ajoutant que le propriétaire de cette Bible n'en ignorait pas la valeur. Je la fis en effet connaître au marchand. Il me rendit les 4 francs 50 centimes que je lui avais remis. La Bibliothèque royale paya la Bible de Soncineau 7 500 francs et j'eus l'orgueilleuse satisfaction de penser que grâce à moi, la France conservait ce trésor bibliographique. Et plus tard, un trésor de beauté, de grâce et de candeur devait vous récompenser de tant de délicatesse et d'un si grand sacrifice à la science, monsieur Lambert. Dit soudain la voix de Sylvia, depuis quelques moments silencieuse, et ainsi que Francine Lambert, attentive à l'entretien de Wolfram et du libraire. Et maintenant, ajoute Sylvia, je ne m'étonne plus de l'émotion de votre aimable compagne lorsqu'elle me disait « Ah, madame, c'est un cœur d'or que celui de mon mari ». « Vous nous écoutiez, j'en suis ravi, » répond Wolfram en se rapprochant de la causeuse où sont assises les deux jeunes femmes.
Avouez que ce qui surpasse peut-être encore la délicatesse exquise de cet acte, c'est la touchante modestie avec laquelle M. Lambert la raconte.
« Et le croiriez-vous, madame? Cet acte si honorable pour mon mari, je l'ignore aussi, moi, »
ajoute naïvement Francine, toute glorieuse des louanges accordées au libraire.
« Mais en revanche, je sais d'autres actions de lui encore plus belles que celle-là, Oui, madame, encore plus belle que celle-là. Et je vous racontais comment j'ai... Ma chère enfant, de grâce !» dit M. Lambert en interrompant sa femme avec un accent de douce et paternelle autorité. « N'abusons pas de la bienveillance que monsieur et madame veulent bien nous témoigner. »«
Je me tais, mon ami, »
dit Francine en rougissant et baissant les yeux. « Pardon, madame. »
« Fille, monsieur, vous la troublez, vous la rendez confuse, cette chère madame Lambert, » reprend Sylvia, et s'adressant gaiement à Francine.
« Il faut vous soustraire à cette tyrannie insupportable. Venez un matin chez moi, et alors vous me direz sans contrainte tout le bien que vous pensez de ce méchant homme, ou plutôt, comme vos occupations peuvent vous retenir à votre magasin, et que moi je dispose librement de mon temps, j'irai vous trouver. Soyez tranquille, nous médirons à cœur joie de ce vilain monsieur Lambert. »
Quoi ? Il commet parfois en sournois les actions les plus nobles, les plus touchantes, et cet hypocrite ne veut pas souffrir qu'on le démasque ? Eh bien, nous nous révoltons, et nous le démasquerons, n'est-ce pas ?
Oh oui, madame, quant à cela, je suis bien résolue à me révolter, répond gaiement Francine, subissant de plus en plus le charme de Sylvia et se sentant près d'elle tout à fait en confiance.
Puis, s'adressant au libraire, « Tu entends, mon ami, tu n'ignoreras pas du moins le complot. »
« En effet, cher enfant, il existe ici un complot, »
répond M. Lambert à la fois souriant et ému.
« Monsieur et Madame Wolfram ont comploté de s'affectionner en quelques instants par leur affabilité charmante un pauvre bouquiniste et sa femme, en un mot, de le rendre aussi agréable que possible cette soirée, que nous redoutions fort de notre inexpérience du grand monde, et ma foi, le complot a réussi au-delà de toute espérance. »
Puis le libraire ajoute sérieusement, « Ma chère Francine, remercions le hasard qui nous a fait connaître monsieur et madame Wolfram. »
Le dieu hasard recevra aussi nos remerciements, mon cher monsieur Lambert, reprend Wolfram. Car je vous le dis en toute sincérité, Sylvia et moi, nous sommes enchantés de la circonstance qui nous rapproche. Nos relations deviendront suivies, laissez-moi le croire. Puis, je suis un peu votre confrère indigne en bibliomanie.
Indigne ?
Ah, monsieur, si j'en juge d'après le spécimen de votre savoir, « vous pouvez rivaliser avec tous les libraires de la vieille roche, » répond ingénument M. Lambert. « Et si vous m'honorez d'une visite, je soumettrai à votre appréciation quelques exemplaires hors ligne, soit dit sans vanité. »
L'un des valets de chambre annonce en ce moment et successivement
« Monsieur et Madame Borel, Monsieur Alexis Borel, Monsieur de Saint-Prosper. »
Sylvia s'est enlevée de la causeuse afin d'aller recevoir Madame Borel.
Le libraire fait un signe à sa femme et se dispose à quitter le salon, mais Wolfram, devinant l'intention de M. Lambert,
« De grâce, ne nous quittez pas encore. »
« Madame Lambert sera, j'en suis certain, ravie d'entendre Mademoiselle Antonine Jourdan. »«
Oh, sans doute, monsieur, » répond Francine.
Mais soudain, la jeune femme devient pourpre, s'interrompt, et songeant à M. de Luxeuil, elle répond, osant à peine jeter les yeux sur son mari,
« Cependant, il est déjà tard et... »
« Ah, madame, il est à peine 9h30, » reprend Wolfram, « et afin de vous décider peut-être à rester, j'ajouterai que Sylvia chantera ce soir et que vous ne regretterez pas, je l'espère, de nous avoir accordé quelques instants de plus. »
« Il nous est impossible de résister à une si aimable insistance, » répond le libraire.
« Nous resterons donc, monsieur Wolfram, et nous ferons de plus une action charitable, » ajoute monsieur Lambert en souriant. « Nous irons tenir un peu compagnie à ce pauvre monsieur Dubousquet qui, par sauvagerie, reste dans la bibliothèque, sur laquelle maintenant je serais curieux de jeter un coup d'œil. Ceci rend un peu moins méritoire mon action envers notre voisin. »
Le valet de chambre annonce en ce moment « Monsieur de Luxeuil ». À ce nom, Madame Lambert tressaille, rougit d'abord, puis pâlissant légèrement, elle dit au libraire d'une voix altérée en se dirigeant vers la bibliothèque
« Viens, mon ami, allons tenir compagnie à ce pauvre monsieur Dubousquet. »
M. Lambert n'a pas remarqué la soudaine émotion de Francine. Il entre avec elle dans la bibliothèque, tandis que Wolfram va rejoindre Sylvia afin de l'aider à faire aux nouveaux arrivants les honneurs du salon.